Cheers and pummels! Down, down, double down!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
L'émission d'Atacrone. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est un test important pour l'avenir de l'Europe, de la démocratie de l'Europe. C'est la situation en Grèce et son évolution. Donc avec nous, nous allons avoir trois invités. Nous en avons que deux pour l'instant, mais le troisième ne saurait tarder. Donc on a Armand et Eleni qui font tous partie du comité de soutien du peuple grec. Donc bonjour.
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 Et donc nous, si on peut... Dans un premier temps, faire un bref descriptif de ce qu'est ce comité et ce que ça représente. Eleni ?
Alors en fait, l'idée de la création du comité de soutien au peuple grec Lyon a germé suite à un rassemblement qui a eu lieu le 18 février dernier. Place des terreaux. Ce rassemblement a été fait de façon, je dirais, un peu spontanée, qui avait pour objectif, suite à la victoire de Syriza le 25 janvier dernier en Grèce, eh bien, de montrer que le peuple grec n'est pas oublié et que nous sommes en solidarité avec eux. À la suite de ce rassemblement, nous avons décidé à quelques-uns de nous retrouver dans un bar à proximité et de se demander, de se dire, mais que fait-on pour la suite ? Parce qu'il ne faut pas que cela s'arrête là. Parce, ne pas oublier que c'est quand même une première en Europe que... qu'il y ait un gouvernement de gauche. Quand je dis de gauche, c'est la vraie gauche. Et voilà, donc comment est venue l'idée de cette création du comité de soutien ? En fait, on y a réfléchi à deux reprises et son objectif est d'organiser donc la solidarité avec les Grecs afin que la ligne politique anti-austérité qu'ils ont choisie soit un réel succès. Et l'objectif de ce comité est non seulement d'informer les citoyens sur la crise actuelle grecque, notamment en mettant en avant l'immoralité des décisions de l'Union européenne, en montrant que les Grecs n'ont pas de leçons à recevoir de la part des leaders politiques peu recommandables sous de nombreux aspects, en liant aussi les résultats du référendum français de 2005 et les résultats des élections de 2015 en Grèce, en montrant qu'être solidaire avec les Grecs, c'est aussi lutter pour notre propre survie, je le dirais ainsi, montrant qu'un éventuel échec de Syriza ouvrirait grand la porte à l'extrême droite dans de nombreux pays européens et notamment en France, détruire bien entendu les stéréotypes erronés sur les Grecs, montrer aussi, et en illustrant les souffrances des Grecs, informer le public sur les décisions politiques du gouvernement grec, par exemple sur la décision d'abandonner de grands projets inutiles et imposés. Et le second objectif du comité est d'organiser la solidarité de façon beaucoup plus concrète. Donc peut-être voir si nous pouvons organiser des soirées conférences avec films, débats, des pétitions de soutien et pourquoi pas un soutien financier, même symbolique, de citoyens français sur des projets en Grèce.
Merci bien. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir bien sur les actions de ce comité. Mais... Robert vient de nous rejoindre, donc on est effectivement avec nos trois invités maintenant. Ce qui serait peut-être bien avant de démarrer, c'est d'avoir peut-être un petit état des lieux rapide de la situation grecque. Alors je pense que c'est Eleni encore qui va nous en parler, mais simplement pour faire le point un peu de la situation.
Alors très rapidement, comme vous le savez, la coalition précédente, donc Samaras-Venizelos, a complètement détruit le pays. donc en appliquant des mesures d'austérité qui ont été imposées par la Troïka. La Grèce, comme vous le savez, je suppose, a connu quand même 11 plans, 11 mémorandums plus exactement, 4 en 2010, 4 en 2011, 2 en 2012 et 1 en 2013. Mais je pourrais revenir sur, faire un rappel sur ces mémorandums un peu plus tard, si vous le voulez bien. Donc cela concrètement se traduit par l'augmentation de la pauvreté. Puisque la Grèce a le plus haut taux de pauvreté dans la zone euro, ne pas le perdre de vue. Également, augmentation du chômage, de la famine. Il faut savoir que c'est du jamais vu en Grèce depuis la dernière guerre mondiale et bien entendu de l'exclusion sociale. Alors concrètement, en chiffres, cela donne 1 million de pertes d'emplois, 30% d'entreprises fermées, environ 38% de baisse de salaire pour les gens qui ont encore un emploi, 45% de baisse des pensions de retraite, 42% de mortalité infantile, sans compter bien entendu la hausse des suicides, de la dépression et puis la hausse de mortalité des gens qui ne peuvent plus se soigner faute de moyens. Et l'exclusion sociale touche 44% des jeunes entre 15 et 29 ans. Et de plus, beaucoup d'enfants ne prennent qu'un repas par jour. Et en matière d'emploi, un chiffre très rapide, en cinq ans, il y a eu 988 000 personnes qui ont été licenciées. Donc cela démontre bien que ces mesures ont mis le peuple à genoux, pour être très brève.
Tu évoquais des cas comme la mortalité infantile ou les gens qui ne peuvent plus payer des dépenses de santé. Ça veut aussi dire que c'est des services publics
tout à fait.
Ou la sécurité sociale de santé qui ne fonctionne plus.
Alors, effectivement, c'est tout à fait cela. En termes de santé, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé. Il y a des hôpitaux qui n'ont même plus de médicaments, je dirais, pour soigner de lourdes pathologies. Moi, j'ai vu un cas en Grèce, un des amis de la famille, une personne qui était atteinte d'un cancer et, faute de moyens, ne pouvait plus se soigner. L'hôpital dans la région était fermé, donc il était obligé de se déplacer à Athènes, et faute de moyens, il ne pouvait pas aller à Athènes. Donc, conclusion, la lourde pathologie n'a pas pu être soignée à temps et il en est décédé. Malheureusement, ceci est fréquent en Grèce. Et je ne parle pas non plus des écoles, hein, puisque les écoles ont été fermées petit à petit, également faute de moyens. Pour donner un exemple à Athènes, un exemple concret aussi. Alors, je ne sais plus le nom de cette école, mais en plein hiver, donc les classes ne pouvaient plus être chauffées. Et le peu d'instituteurs qui étaient encore en poste, hein, parce que pas oublier non plus qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans ce domaine-là, se sont tous mobilisés et cotisés pour pouvoir chauffer leur propre classe d'école, sans compter aussi les habitants qui se sont mobilisés aussi pour pouvoir nourrir les enfants qui restaient à la cantine, parce que là aussi il y a eu une grande défection.
Et malgré toutes ces conséquences catastrophiques pour le peuple grec, on entend nous dire qu'il faut qu'ils remboursent leurs dettes, que de toute façon c'est un devoir, et que si en plus ils ne la remboursent pas, ça coûterait de l'argent aux Français. Donc c'est toutes des choses qu'on entend dire. Donc ça serait peut-être intéressant aussi qu'on passe un peu de temps à discuter de ce problème de la dette. Et je pense que Robert est particulièrement au point là-dessus. Donc si tu peux nous dire un peu ce qu'il en est, ce que c'est réellement que cette dette, comment elle est venue et comment ça peut se résoudre.
Alors, la dette actuelle est importante, hein, elle est de l'ordre de 320 milliards d'euros, donc ne pas oublier que la Grèce est beaucoup plus petite, hein, en termes d'économie que la France, et en termes de pourcentage du PIB, ce qui donne une meilleure idée, hein, elle est aujourd'hui de l'ordre de 175%, donc en 80% supérieure à ce qu'elle est en France, à peu près. Donc elle est très très importante. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. La dette, elle a déjà commencé à être importante sous les colonels, entre 67 et 74. Elle a quadruplé, hein, pendant la période des colonels. Quand est revenue ensuite la République, enfin un régime plus démocratique en Grèce, elle a continué à croître. Alors pourquoi elle a cru ? D'abord pour des dépenses militaires. La Grèce, depuis très longtemps, dépense énormément pour l'armement. Hein, 4% de son PIB, en France c'est 2,4%. Et ça continue aujourd'hui. Et ça a continué encore. Je ne pense pas que l'actuel gouvernement continue, mais les gouvernements précédents continuaient de dépenser beaucoup pour l'armement. Il faut bien voir que quand on dépense beaucoup pour l'armement, on peut dire c'est idiot, mais il y en a qui gagnent. Les industries de l'armement gagnent parce qu'elles vendent. Et qui sont ? Quelles sont ces industries de l'armement ? Notamment des industries françaises et des industries allemandes. Il y a aussi des grandes réalisations plutôt inutiles, plus ou moins inutiles. Les Jeux Olympiques de 2004 qui ont coûté fort cher aussi. Et tout ça, ça a été possible grâce à une corruption assez généralisée des élites grecques. Alors, il ne faut pas oublier que quand il y a corruption, il y a des corrompus. Donc, c'est dans ce cas-là, ce sont une partie des élites grecques. Mais il y a aussi des corrupteurs. Et qui sont les corrupteurs ? Eh bien, ce sont les représentants des grandes entreprises qui vendent à la Grèce. Alors, de l'armement, on l'a vu, mais pas seulement de l'armement. On peut citer quelques entreprises qui ont profité de contrats un petit peu étonnants et qui sont poursuivies par la justice grecque aujourd'hui, notamment Siemens, l'une des très grandes entreprises allemandes qui a vendu... à la Grèce, un système pour améliorer son système téléphonique, son réseau téléphonique, avec des tas de problèmes. Il y a aussi il y a beaucoup de corruption, mais il y a aussi de la fraude. Par exemple, on peut citer des entreprises qui ont fraudé, notamment BMW, Mercedes, qui récupéraient une taxe assez élevée sur les véhicules de luxe, de plus de 25 000 euros en Grèce, mais qui... pour importer ces véhicules en Grèce, les faisait passer pour des véhicules d'occasion. Donc ne remboursait pas à l'État grec les taxes qu'ils avaient reçues de leurs acheteurs grecs, etc., etc. Donc on voit que si bien sûr les principaux dirigeants politiques et économiques grecs sont bien responsables, ce ne sont pas les seuls, il y a aussi de grandes entreprises européennes et notamment de grandes entreprises allemandes. Ce n'est pas les seuls, mais il y en a essentiellement. Alors la dette, elle a continué donc d'augmenter. Elle était, avant la crise actuelle, disons de 2007-2008, elle était un petit peu supérieure au PIB de la Grèce de 103 points. Alors il y a un chercheur français qui a regardé quel était l'impact à cette époque, avant la crise, quel était l'impact des intérêts d'une part et puis des cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les Grecs les plus riches. Alors les intérêts ont été très très élevés en Grèce, beaucoup plus élevés qu'en France. Et quand les intérêts sont supérieurs à la croissance, au taux de croissance, mécaniquement, tout État ne peut qu'augmenter sa dette pour rembourser ses intérêts. Et il a calculé qu'en 2007, sur 103 points de dette publique, il y en avait 58 qui étaient dus à des intérêts très supérieurs au taux de croissance, donc ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et puis il y avait aussi 17 sur 103, qui étaient dus à des cadeaux fiscaux qui ont été accordés aux plus riches à partir de l'entrée de la Grèce dans la zone euro en 2001. Donc ça fait quand même beaucoup, cadeaux fiscaux et effet boule de neige, donc intérêts extraordinaires. En 2007-2008 seulement, font le tout, ça fait en gros 73% de la dette publique de l'époque. Donc c'est énorme.
Ce qui veut dire que la dette, en fait, il faut la décomposer. Il y a une partie qui correspond donc au capital qu'on rembourse et une aux intérêts.
Oui, c'est-à-dire que la dette, elle est due à des déficits. Les déficits sont dus à des déficits, donc il faut combler. Les déficits proviennent de quoi ? Proviennent de dépenses supérieures aux entrées. Donc soit vous avez des entrées, donc des recettes trop faibles, notamment par les cadeaux fiscaux, soit vous avez des dépenses trop élevées, notamment par les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt sont élevés. Les taux d'intérêt sont continués à augmenter. En 2009, les taux d'intérêt sont passés à 6%, 12% en 2010, 35% pour les prêts à 10 ans en 2011-2012, 35%. Ça veut dire qu'un tiers de ce qui est prêté est récupéré en un an. En trois ans, vous avez récupéré votre mise. C'est extraordinaire.
Et qui fixe ces taux d'intérêt ?
Eh bien, ce sont les marchés, ça n'existe pas, les marchés.
Donc
les
c'est des banques privées ?
Moi, j'appelle les marchés, c'est le parlement des spéculateurs et des banques et des multinationales qui imposent leur politique par le biais des taux d'intérêt. Donc, c'est les banques qui achètent les emprunts, bien sûr, mais derrière les banques, il y a des gens physiques, des personnes physiques qui ont les moyens d'acheter, évidemment, ces emprunts. Donc, des gens qui sont plutôt dans les 1% des plus riches du monde. Alors, la dette, les taux d'intérêt ont ensuite, en 2012, baissé un peu, mais 20% tout de même. En 2014, près de 5%. Tout ça lorsque les banques se refinance auprès de la Banque Centrale Européenne à des taux qui sont incroyablement plus faibles, qui sont de l'ordre de 0,3%, 0,80, 0,8%. Donc vous voyez, les bénéfices des banques ont été extraordinaires en Grèce.
Malgré tout, on nous explique, nous, que si la dette est si grosse et si les dépenses sont trop fortes, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires, par exemple, en Grèce. Alors qu'apparemment, c'est pas le cas, puisque moi j'ai lu quelque part que ça représente 7% de l'emploi en Grèce, alors qu'en France, on est beaucoup plus haut, par exemple. C'est une désinformation complète.
C'est de la désinformation, c'est de l'argumentaire de marketing pour vendre les politiques néolibérales, les politiques d'austérité, on raconte n'importe quoi. Alors, il y a un comité pour la vérité sur la dette publique qui a été instauré il y a à peu près un mois par le Parlement grec, auquel participent des Grecs et puis d'autres et des étrangers, notamment le porte-parole du comité pour l'annulation des dettes illégitimes, le CADTM. Et donc, il va faire la lumière un petit peu sur la dette grecque, qui la possède, d'où elle vient, et quels ont été les mécanismes de cette dette, pour voir quelle est la part de cette dette publique qui est illégitime, qui est illégale, qui est odieuse même, ou qui est insoutenable. Alors on peut peut-être rappeler, peut-être plus tard, voir un petit peu ce que signifie une dette illégitime, odieuse, insoutenable.
L'intérêt de cette situation, c'est qu'on voit réellement des gens qui se prennent en main, des gens qui élisent un gouvernement pour justement changer la donne. Et malgré la déclaration de Juncker qui dit que les processus électoraux ne peuvent pas changer les traités européens, on voit bien pourtant qu'on y arrive. Donc là, je vais passer la parole à Armand qui va nous parler un peu de comment le nouveau gouvernement grec va essayer de faire tourner le sens de l'histoire.
C'est effectivement à cette échelle-là que se pose le problème, et ça paraît effectivement David contre Goliath quand on voit effectivement sur quoi confronter le gouvernement grec et Syriza. Et le problème, c'est que effectivement, on assiste depuis 3 mois là, on assiste à une situation qui est quand même inédite, quoi. On assiste à une situation où tout le monde s'attendait à ce que dans les 2 premiers mois, le gouvernement grec se couche devant les dictats de la Troïka. Et le gouvernement grec, pour l'instant, ce qu'il dit, c'est qu'il veut appliquer le programme pour lequel il a été élu. Alors ça mérite ça de s'attarder 2 minutes sur c'est quoi ce programme pour lequel il a été élu. Alors le programme pour lequel il a été élu, il est issu d'une déclaration qui s'est tenue un an avant de Syriza, une convention, la déclaration de Thessalonique. Et il y a effectivement un programme sur lequel a fait campagne, a été élu Syriza, même s'il a dû faire alliance avec un parti de droite anti-austérité, hein, un petit parti. Dans ce programme, il y a 3 niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce programme, on ne va pas le détailler ici, mais c'est un programme qui est chiffré. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sortir des dégâts humanitaires qu'ont provoqué les politiques d'austérité imposées par la Troïka et l'Union européenne et qu'avaient accepté les autres gouvernements. Eleni y a fait référence. C'est un plan de sortie de la crise humanitaire, puisque ces politiques d'austérité ont fait que la Grèce, ça a été dit, a reculé sur le plan humanitaire, sur le plan des droits fondamentaux, de manière extraordinaire, que ce soit sur la santé, l'éducation, tout. Et de ce point de vue, ce qu'on peut constater déjà aujourd'hui, c'est que alors que la Troïka veut étrangler financièrement le gouvernement pour qu'il capitule, le gouvernement est élu sur le fait qu'il ne veut pas, il veut négocier, il ne veut pas sortir de l'euro. En tout cas, c'est pas lui qui, même si on entend que...
C'est pas encore à l'ordre du jour.
Voilà, il ne veut pas sortir de l'euro, il veut négocier pour avoir les marges de manœuvre qui lui permettent d'appliquer son programme. Et il fait des propositions depuis 3 mois, on en est à la 10e, et j'ai entendu ce matin que... Puisque, en gros, il faut savoir que depuis décembre 2014, il n'y a plus aucune liquidité qui est donnée à la Grèce pour marge de manœuvre. Et donc, c'est une stratégie d'étranglement financier pour qu'ils ne puissent pas appliquer leur programme. Et ça va au-delà, c'est-à-dire que ce que demande la Troïka, c'est qu'il faut aller plus loin et il faut toucher sur les retraites, c'est passé, il faut encore reculer les retraites. Les retraites, les pensions de retraite ont été diminuées de un quart, des trucs terribles. La Troïka considère qu'il faut aller encore plus loin sur s'attaquer aux retraites et s'attaquer y compris au droit du travail.
En fait, ils coupent les financements pour les amener à les amener faire plus de compromis encore.
Et encore plus loin dans les politiques d'austérité avec les dégâts qu'elles ont déjà faits. Et jusqu'à présent, le gouvernement fait des compromis, pas des compromissions, et tient bon, et je crois que ça, il faut le dire, il tient bon par rapport à son programme. Sur la question du volet humanitaire du programme de Thessalonique, il y a effectivement des mesures de gratuité qui ont été faites, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits. Bien sûr, il faut s'inscrire à ce programme humanitaire. Les Grecs qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est énorme, ont jusqu'au 20 mai pour s'inscrire dans ces programmes. Et donc, à partir de là, ils ont une aide, ils ont des éléments pour avoir le droit à la santé gratuite, parce qu'il y en a qui n'ont plus aucun droit à la santé. Et par exemple, je vous donne un exemple concret, il y a un centre social, ça s'appelle, ils ont créé des centres de services aux citoyens, KEP, par exemple dans un quartier sud d'Athènes, Neos Kosmos, où là, il y a de l'aide alimentaire, des bons d'achat, ce sont 10 euros par mois, des aides au logement, des aides pour payer l'électricité, et jusqu'à un certain niveau, inférieur ou égal à 300 kW par mois. Et c'est un programme humanitaire qui met en œuvre dès maintenant et qui sort de la précarité la plus grave des centaines de milliers de Grecs déjà aujourd'hui. Ça, c'est le programme humanitaire. Il y a un deuxième niveau.
Il y a la possibilité financière pour le gouvernement d'arriver à le...
Alors, j'y viens.
À le mettre en œuvre.
Alors, j'y viens. La deuxième strate du programme de Syriza, du programme de Salonique, c'est la réforme de l'État. Je vais y venir. Et le troisième strate, on l'a abordé, c'est la question de renégocier, restructurer la dette. Et donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le bras de fer... il est effectivement pour appliquer ces éléments de programme. Et donc, les recettes, alors juste un exemple, évidemment que là, pour l'instant, ils sont sur des stratégies d'étranglement, et ils ont du mal, effectivement, à trouver les recettes pour s'en sortir, et il y a un bras de fer qui fait que ils doivent y compris rembourser, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient bien rembourser, tout en faisant l'audit citoyen de la dette, ils veulent bien rembourser la part légitime. La part légitime, c'est par exemple les emprunts qui ont été faits précédemment, pour des investissements publics. Ça, c'est légitime de rembourser. Mais tout ce qui est les emprunts pour les spéculateurs, les cadeaux fiscaux, etc., ça, voilà. Donc, mais pour l'instant, ils n'ont aucune liquidité, alors que paradoxalement, il y a des milliards qui ont été débloqués par le Mario Draghi, le président de la BCE, pour donner du mou dans tous les pays européens par rapport aux conséquences des politiques d'austérité.
Ils sont vraiment étranglés parce que j'ai entendu qu'ils étaient en train de récupérer les fonds dans les services publics, les réserves.
Ce que je veux dire, c'est que c'est indécent, il faut le dire à nos auditeurs, c'est indécent de voir que la Banque Centrale Européenne elle-même lâche du mou avec des liquidités pour tous les autres pays européens pour que les conséquences de l'austérité soient moins dures, et que sur la Grèce, rien. On voit bien que ce n'est pas un problème économique, c'est un problème politique et démocratique de ne pas respecter le choix des Grecs et de montrer que ce gouvernement, comme les autres, il ne tient pas ses promesses. Jusqu'à présent, ce gouvernement tient ses promesses et jusqu'à présent, les sondages d'opinion font qu'il y a à peu près plus de 61% des Grecs qui disent qu'ils ont raison de se battre. Bien entendu, ils veulent des résultats, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, ils ont l'opinion avec eux qui dit ce gouvernement-là, il nous a rendu notre dignité. Et il se bat, il a raison, maintenant il faut des résultats. Et les résultats, il faut qu'ils arrivent, effectivement, très très rapidement. Pour répondre à la question, peut-être on y reviendra, mais je ne veux pas être trop long. Mais sur la question des recettes, par exemple, c'est effectivement toute la question que dans le programme de Syriza, il y a un programme de réforme de l'État. Et sur ce programme de réforme de l'État, par exemple, ils ont dit qu'il fallait s'attaquer à des éléments, Robert l'a abordé. Il y a une corruption, un côté mafieux de l'État grec. Et c'est cet État, cette administration dont hérite Syriza. Et donc aujourd'hui, Syriza a un programme où ils font des mesures concrètes, je l'ai montré, sur l'humanitaire, et ils commencent à s'attaquer sur une réforme de fond qui va être longue. Mais par exemple, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé, Leonidas Bobolas. Leonidas Bobolas est le fils d'un énorme oligarque grec, qui avait effectivement des dettes par rapport à l'État grec, et qui, y compris, est un spécialiste des paradis fiscaux, puisqu'il est sur la liste qui est parue là, de la garde de HBSC. Bon. Eh bien, le gouvernement, le Parlement a décidé de le faire payer. Et évidemment, lui, il considérait qu'il était au-dessus du lot, et bien il s'est retrouvé avec la police qui est venue le chercher, qui l'a mis en garde à vue, et la libération, ça a été contre, effectivement, le règlement de ce qu'il doit. Donc ça, c'est des actes concrets qui montrent la volonté. Alors évidemment, ça c'est un aspect du problème, c'est comment s'attaquer, fraude fiscale, oligarchie et tout.
Il y en a qui échappent aussi, parce que j'ai vu que un des PDG de Siemens qui a mis la panade au niveau des télécoms en Grèce est finalement en ce moment tranquillement en Allemagne, et l'Allemagne refuse de l'extrader pour qu'il soit jugé, enfin pour qu'il réponde de ses actes.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils ont fait un exemple symbolique par rapport à cet oligarque. Maintenant, il faut qu'ils aient une délibération, et il faut qu'effectivement ils votent une loi et avec les moyens pour pouvoir aller beaucoup plus loin sur s'attaquer aux paradis fiscaux, etc.
Oui, Robert,
oui. Oui, il faut quand même pas oublier que la Troïka n'a jamais poussé le gouvernement grec à lutter contre la corruption. Non. Jamais.
Oui, tout à fait.
Elle a obligé le gouvernement grec à baisser les salaires, baisser les retraites, détruire le droit du travail, ça, sans aucun problème. Mais faire rentrer les recettes fiscales dans les caisses de l'État grec, jamais. Lutter contre la corruption des élites grecques et des élites européennes non grecques, jamais. Voilà.
Je voudrais juste rajouter, pour répondre à la question que tu as posée, c'est que là, le programme de Syriza, par rapport à ce qu'exige la Troïka, la Troïka veut maintenant des mesures de recettes fiscales. Et donc, ils leur disent qu'il faut réformer la TVA. La TVA, s'ils veulent qu'ils l'augmentent, la TVA, c'est les produits de première nécessité. Eh bien là, il y a un bras de fer, y compris sur cette question-là, puisque ce que dit le gouvernement grec et Syriza, c'est de dire qu'ils veulent bien discuter d'augmenter la TVA sur les produits de luxe, augmenter la TVA sur un certain nombre de produits qui s'adressent aux catégories les plus riches, les oligarchies, mais ils ne veulent pas toucher la TVA par rapport aux produits de première nécessité. Ça montre que le bras de fer, il se fait là-dessus. Mais ils disent bien qu'ils veulent discuter, faire des réformes. Deuxièmement, il faut renforcer l'administration fiscale, renforcer les rentrées fiscales, en améliorant la collecte de l'impôt, parce qu'effectivement, c'est bien connu que, y compris l'église orthodoxe grecque, qui est propriétaire foncier, qui a des richesses énormes, ne paie aucun impôt, l'oligarchie non plus, et y compris, par exemple, il faut qu'ils s'attaquent à finir le recensement cadastral, puisque en Grèce, on ne connaît pas la réalité de la propriété foncière aujourd'hui, et évidemment, il y a toute une partie de l'assiette des impôts qui doit être basée là-dessus. Donc, il s'attaque à ça, et évidemment, il s'attaque aussi sur le fait que ils ont, par exemple, réussi à faire, mais j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, ils ont rétabli la télévision publique qui avait été fermée, le RT, mais ils ont réussi aussi, avec une mesure très simple, ils ont fait que les foyers, les entreprises surendettées, parce qu'il y avait beaucoup de foyers d'entreprises surendettées, qui se retrouvaient dans des situations de surendettement, et puis on leur prenait leur maison, etc. Ils sont en train de faire un réchelonnement du surendettement. Tout à fait. Et en ayant ce surendettement avec des critères, mais y compris étalé sur plusieurs mois, avec des sommes, y compris 20 euros de remboursement, etc., pour les couches populaires et tout, mais ils arrivent à une situation où ils arrivent, y compris aujourd'hui, à avoir quelques recettes. Alors, je dis pas que c'est la hauteur des besoins qu'ils ont, parce qu'il faut qu'ils arrivent à obtenir la dernière tranche d'aide auquel ils ont droit, que la Troïka ne veut pas leur donner. C'est ça le bras de fer qui a lieu. Ils ont besoin de ça, de ces liquidités. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté de négocier, de répondre aux demandes de comment vous voyez les réformes que vous pouvez faire pour faire rentrer l'argent, pour qu'il y ait effectivement une amélioration, ça, ils sont prêts à discuter. Et c'est la Troïka qui, pour l'instant, veut, qui passe la ligne rouge en s'attaquant, destruction de... Ils ont rétabli aussi le droit du travail. Et contrairement à ce qu'on entend, je le dis aussi, contrairement à ce qu'on entend, ils n'ont pas capitulé sur le fait qu'ils sont engagés dans leur programme à augmenter les salaires. Ils veulent rétablir les salaires à 751 euros bruts par mois, alors que la politique d'austérité a fait baisser, le SMIC a fait baisser en 2012 à 580 euros par mois. Ils ont dit que ça, ils le maintenaient, mais évidemment, ils ne le disaient pas tout de suite.
Eleni, tu voulais rajouter quelque chose avant?
Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, on voit bien entendu que là les visages, les masques tombent. Hein, on voit bien que l'Eurogroupe et la Troïka mettent les bâtons dans les roues hein, par rapport au nouveau gouvernement afin de ne pas.
Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est l'Eurogroupe?
Oui, alors l'Eurogroupe, c'est la nouvelle, je dirais, appellation des commissaires européens qui viennent en Grèce faire des vérifications, des contrôles.
C'est l'ancienne Troïka, en fait.
Voilà, ça s'est transformé un peu comme ça.
Ça change de nom, mais c'est les mêmes.
Ce sont les mêmes, de toute façon, les rapaces sont toujours là et ce sont toujours les mêmes. Moi, ce que je voulais dire très rapidement par rapport aux lois qui ont été appliquées et par rapport au fait que Syriza, le nouveau gouvernement, ne lâchera pas et quelque part, ils ont marqué quand même des points et là, ça dérange vraiment l'Eurogroupe. Tout à l'heure, Armand l'a dit, mais il y a quand même des mesures très importantes. C'est aussi, je rajoute, hein, la gratuité de l'électricité. Avec la création donc de subventions alimentaires, parce qu'il y a quand même 300 000 familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bien sûr, tu l'as dit aussi, le rétablissement donc du salaire minimum. Et là-dessus, la Troïka ou l'Eurogroupe a fait objection, mais par contre, ils l'ont quand même appliqué. Ils ont quand même réussi à faire passer cette loi. Et un point important, puisque tu parlais des retraites tout à l'heure. Alors, Armand, eh bien, il y aura un relèvement progressif des petites retraites. Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a des personnes âgées qui ne vivent qu'avec 400 euros de retraite par mois. Donc, imaginez-vous dans un pays qui a le même, dont le coût, enfin, aussi cher qu'en France, vivre avec 400 euros par mois, c'est très, très difficile. Et, l'abrogation de la taxe foncière, ceci a été dit. Et autre chose que je voulais peut-être ajouter, je ne sais pas si tous nos auditeurs le sachent aussi, mais comme Varoufakis se gênait en tant que négociateur face à l'Eurogroupe, eh bien, il y a eu un remaniement de cette équipe de
négociation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de ça peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Parce qu'on va faire une petite pause là et après on reprend.
Κλείσαν οι πόρτες οι βαριές Βρωτήσαν οι αμπάρες Κι εγώ καταδίκως θα ζήσω τώρα Μες στο κενί το σκοτεινό της φυλακής καταδικός γιατί ο κόσμος άδικος Ένα παράδειγμα
Robert, on entend dire, de toute façon, les Grecs, s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute, c'est des fainéants, et ils n'ont jamais rien fait de comme il faut. Alors qu'en fait, les pays européens ont une grande responsabilité dans leur situation.
Il y a une idée qui courait, qui a été mise en avant par quelques ministres allemands, notamment, hein, que les Grecs seraient des branlots qui foutent rien. Les Grecs travaillent, ceux qui travaillent tout au moins, travaillent plus que les Français et plus que les Allemands par an. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Mais la responsabilité, les politiques d'austérité ont été de fait imposées à la Grèce par qui ? Par la Troïka. La Troïka, c'est qui ? C'est la Banque Centrale Européenne, indépendante, on ne sait pas bien de qui, mais indépendante des peuples en tous les cas. Le FMI, qui dépend des États membres du FMI, notamment la France, tous les pays la plupart des pays de l'Union Européenne, et la Commission Européenne, c'est-à-dire l'Union Européenne. Et parmi les... Quels sont au sein de l'Union Européenne, quels sont les acteurs publics qui sont les plus durs, hein? Il y a d'abord l'Allemagne, enfin les représentants de l'Allemagne, notamment Angela Merkel, mais aussi le gouvernement français, et puis un commissaire européen, Moscovici, hein, français, membre du Parti Socialiste. Donc on voit bien que tous ces gens-là ont une responsabilité première, c'est grâce à la politique qu'ils ont imposée à la Grèce, que la Grèce a perdu 25% de sa richesse annuelle, de son PIB. Donc, soi-disant pour remettre à flot la Grèce, en fait, ça a été fait essentiellement, voire uniquement, pour que les banques, notamment françaises et allemandes, puissent être remboursées deux fois, parce que ces banques-là ont prêté à des taux d'intérêt très élevés, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Grèce. Donc, elles se sont payées sur des taux d'intérêt, et en plus... Elles veulent se rembourser totalement. Donc elles veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. D'une part, et on voit aussi que ces États européens, et notamment la France et l'Allemagne, veulent que leurs entreprises nationales propres, enfin les grandes multinationales d'origine allemande ou d'origine française, fassent le plus de beurre possible en Grèce. C'est-à-dire privilégient... Ils veulent que les Grecs, de toute manière, même s'ils n'ont pas d'argent, hein, achètent le plus possible et des gros contrats avec ces entreprises.
La France a voulu vendre de l'armement.
L'armement, par exemple, les dépenses d'armement n'ont pas baissé malgré la crise, sont toujours extraordinaires, mais pas seulement l'armement, aussi des tas d'autres produits qui ont été plus ou moins imposés par la corruption, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc une responsabilité très nette. Des grands décideurs de l'Union européenne, et dont la France, dont le gouvernement français actuel et les gouvernements précédents aussi.
Et l'Allemagne, on parle d'une dette allemande vis-à-vis de la Grèce.
Alors c'est vrai que ça vaut le coup de regarder un petit peu la situation allemande, parce que l'Allemagne, il y a un économiste allemand qui travaille en Angleterre, qui a calculé que l'Allemagne avait bénéficié d'une remise de dette de 7 à 8 000 milliards d'euros au XXe siècle. C'est-à-dire, c'est l'État dans le monde qui, au cours du XXe siècle, a eu la plus grande remise de dette, 7 à 8 000 milliards d'euros, sur l'ensemble du XXe siècle. Alors, notamment, l'Allemagne avait des dettes importantes entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et des dettes importantes après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle a aussi des dettes de guerre dues aux destructions... pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment en Grèce. La Grèce a été l'un des pays le plus touché par l'occupation allemande. La Grèce a eu, entre 250 et 500 000 morts, hein, pour une population qui aujourd'hui est de 10 millions, à l'époque devait être un peu plus faible, ce qui correspondrait, si on peut se permettre de faire un rapport avec la population française, ce qui correspondrait à en gros 2 millions de morts en France. C'est ce qu'a subi la Grèce de par l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est tout à fait légitime que la Grèce, comme d'autres pays d'ailleurs, mais que la Grèce demande à ceux qui sont responsables de ces dettes hors les guerres et puis de cette dette de guerre, de rembourser ces dettes. Alors ça, ça a été géré d'une manière assez extraordinaire au cours des années 50. Après quelques années après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un congrès qui a rassemblé un certain nombre de pays, des grands pays puissants de l'époque, et notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres, qui ont annulé plus de 60% de la dette allemande hors dette de guerre. Bon, ça a été annulé. Mais la dette de guerre n'a pas été annulée, elle a été reportée à la réunification de l'Allemagne, à condition que cette réunification se fasse sous la forme d'un traité de paix. La réunification de l'Allemagne a eu lieu en 89, avec le traité de Moscou en 1990. Traité de Moscou qui ne s'appelle pas traité de paix, et ça c'est pas pour rien. Et donc ça n'a pas été traité, les Allemands considèrent comme ça n'a pas été traité par le traité de Moscou, eh bien c'est fini, on n'en parle plus. Et puis il y a une autre dette qui n'est pas une dette de guerre, qui est un emprunt forcé qu'a obligé l'Allemagne, l'Allemagne a obligé les Grecs à un emprunt forcé important. Et cet emprunt forcé, ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas une dette de guerre, c'est en plus. Hein. Ça n'a pas été touché par l'accord, par le traité de 1953, qui a effacé une partie des dettes, des autres dettes hors dette de guerre. Donc ça court aussi. Alors quelles sont les sommes en jeu? Les sommes en jeu aujourd'hui, alors il y a une commission publique issue du Parlement grec qui a été redynamisée récemment et qui va revoir tout ça de manière la plus sérieuse possible, mais il y a quelques estimations actuelles. Alors notamment la dette de guerre, il y a un ministre grec qui il y a quelques jours qui a demandé et qui a annoncé une dette de guerre de 380 milliards d'euros, donc qui est supérieure à la dette publique grecque actuelle. Et la dette, l'emprunt forcé, le remboursement de l'emprunt forcé de l'Allemagne à la Grèce pendant la guerre se monterait aujourd'hui jusqu'à 160 milliards d'euros. Donc on voit que ce sont des sommes colossales qui sont tout à fait équivalentes à la dette grecque actuelle et que l'Allemagne, tout de même, a une responsabilité pour ne pas avoir remboursé ses dettes personnelles, enfin les dettes de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce. Et puis maintenant, je trouve que c'est un petit peu fort de café de sa part et un petit peu odieux d'exiger l'appauvrissement général des Grecs pour rembourser quelques dizaines de milliards d'euros, alors que l'Allemagne doit quelques centaines de milliards d'euros.
Dans la continuité de ce qui vient être dit, le nouveau gouvernement grec par rapport à cette dette, parce que tu l'as dit, Robert, il a bien demandé à l'Allemagne la réparation des dommages causés lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a les solutions qui peuvent être proposées par ce nouveau gouvernement, c'est un moratoire. Un moratoire pour suivi de l'effacement d'une majeure partie de la dette qui est détenue par le mécanisme européen de stabilité. Et pour le reste de la dette, une restructuration assortie d'une clause de croissance. Donc ça, c'est justement là où le nouveau négociateur, je dirais, est en train de négocier avec l'Eurogroupe. Donc tout ceci par rapport à la dette qui est détenue par le FMI et la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et Syriza demande aussi la sortie des investissements publics du calcul des déficits plafonnés par le pacte de stabilité et de croissance. Donc ça aussi, voilà, on en est là actuellement. Maintenant, pour rentrer dans les détails de ces négociations, je peux pas vous en dire plus. Mais sachez aussi qu'hier, il y a eu de nouvelles négociations. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Riga. Et encore une fois, la nouvelle équipe qui négocie a réussi à détourner, je dirais, les obstacles mis en place par l'Eurogroupe. Et là encore une fois, on peut dire que le nouveau gouvernement tient bon et marque encore un point. Et donc là, on va attendre la suite parce que la suite va être cruciale dans le sens où les dernières négociations vont être menées en juin. Donc voilà où on en est actuellement en termes d'actualité de négociation.
Et justement sur ces négociations, quels en sont l'enjeu? Enfin, quelles sont les perspectives pour la Grèce si ces négociations arrive à bon terme ou pas ? Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler le bon terme dans ces ce type de négociations ?
Qu'est-ce qu'on peut appeler le bon terme ? C'est que Syriza n'échoue pas dans ce qu'il veut mettre en place. Et si jamais il y a un échec, je pense que Syriza, et c'est ce qu'il a promis d'ailleurs, c'est de demander carrément à la population provoquer un référendum,
dans le cas où il serait amené à faire des choses qui ne sont pas prévues dans son programme, c'est de passer devant le peuple, en fait.
Tout à fait. Chose qu'en France, on n'est pas, on n'a pas le gouvernement français.
Une chose que j'ai entendue aussi en place encore, hein. De la part de Syriza, c'est sur un entretien d'une personne sur une conférence en Belgique, qui disait que bon, pour le moment, c'est la sortie de l'euro, enfin la sortie de l'Union européenne, il en est pas question. Mais suivant l'aboutissement des négociations ou pas, ça serait une occasion d'ouvrir le débat au niveau de l'Europe, de savoir est-ce qu'on continue à vouloir une Europe rêvée qui n'existe pas, ou si on fait ça. Armand.
Une précision là-dessus sur les enjeux des négociations. L'intergroupe de Riga, là, qui s'est tenu donc il y a deux jours, comme le dit Eleni, ça a été un échec dans la mesure où l'État grec n'a toujours pas touché. Et c'est ça le bras de fer et l'enjeu de la négociation, n'a toujours pas touché le dernier versement de prêt promis par l'Union européenne et le FMI qui s'élève à 7,2 milliards d'euros. Et c'est ce prêt qui permet, y compris, de tenir les engagements qu'ils ont dit qu'ils le tenaient, c'est-à-dire de rembourser par exemple 750 millions d'euros là, au mois de juin, mais ce qui permet aussi de donner de l'air pour pouvoir travailler à une relance économique. Dans l'intérêt justement du peuple grec et mettre en œuvre les mesures qui ont été proposées. Bon. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur ce problème-là, on voit bien que ce n'est pas un problème économique, le bras de fer. Ce n'est pas un problème économique parce que, moi j'insiste lourdement là-dessus, parce que on voit l'absurdité dans laquelle on est, c'est-à-dire que les politiques d'austérité qui ont fait des ravages partout, avec la Grèce comme laboratoire, stratégie du choc, voilà ce qui va vous arriver, donc soyez raisonnables et commencez à diminuer vos dépenses publiques de santé, d'éducation, etc., ce qu'on vit en France et dans tous les pays européens. Eh bien, on entre dans des logiques qui font qu'il y a une telle récession et on va vers un danger de déflation, et la Banque Centrale Européenne a réagi à ça, la Banque Centrale Européenne, avec un rachat massif sur le marché secondaire des titres des pays en difficulté, contre l'avis de la Bundesbank. Et Mario Draghi lui-même, donc président de la Banque Centrale Européenne, a annoncé, à la grande joie des marchés financiers, que face à la menace déflationniste, la Banque Centrale Européenne se mettait à émettre des liquidités.
Tout à fait.
Hein, en leur rachetant des obligations de tous les États de la zone euro pour un montant de 60 milliards d'euros par mois. Et donc, d'un côté, on a ces politiques qui sont contradictoires avec les politiques d'austérité pure et dure voulues en particulier par l'Allemagne. Et de l'autre côté, on a une volonté d'écrabouiller l'expérience grecque. Alors qu'on voit que ce n'est pas un problème, la liquidité existerait. Donc pour répondre à la question, il y a encore des marges de manœuvre du point de vue du gouvernement grec, puisque par exemple, il y a un article, toujours en restant dans le cadre du traité européen. Dans le cas du traité européen, il y a un article 123.2 du traité de Lisbonne qui autorise un État à créer un établissement financier public qui pourrait tout à fait légalement demander un prêt auprès de la BCE afin de financer des investissements publics nécessaires pour remettre le pays en état, en état de marche sans passer par les banques privées. Parce que le problème, il est quand même là. C'est que, à partir du moment où l'État ne peut pas se financer au niveau de la banque centrale, mais qu'il est obligé de passer par des banques privées, ben les banques privées, elles se gavent. Et après, voilà le mécanisme infernal de la dette. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des marges de manœuvre. Il y a encore des marges de manœuvre. Mais moi, ce que je voudrais insister, c'est sur nos tâches de solidarité à nous. Parce que c'est pas un problème des Grecs. Hein, c'est un problème que ce qui se passe en Grèce est un laboratoire de tout ce qu'on vit en Europe aujourd'hui.
C'est clair que la Troïka, elle a aucun intérêt à voir la Grèce faire la démonstration qu'une alternative est possible.
Absolument.
Parce que
absolument,
d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne et même
l'Irlande,
la France,
l'Irlande
pourraient très bien avoir des idées.
D'autant plus qu'il va y avoir prochainement des élections en Espagne, hein, donc voilà, suivre de près aussi.
Puis c'est vrai qu'il y a une tendance, les mauvais élèves, les bons élèves, comme on disait tout à l'heure, il y a ceux qui Ceux qui l'ont bien cherché parce que voilà, c'était des flemmards, et puis ceux qui sont supposés travailler, on voit que quand on a des vrais chiffres, c'est pas du tout le cas. Alors qu'en fait, donc c'est un problème qui nous concerne pas, voilà. Alors qu'en fait, ça nous concerne.
Il y a un enjeu aussi. Il faut bien voir que si Syriza, si la gauche grecque ne réussit pas, fait, si c'est un échec, qu'est-ce qui va se passer en Grèce ? Ben, ça va pas être la droite, ça a été l'échec. La gauche, l'échec. Qu'est-ce qu'il reste ? L'extrême droite. Et pas seulement en Grèce, de mon point de vue, aussi en France et ailleurs. C'est-à-dire si, au niveau européen, les gens sont tous conscients que la... que le, les libéraux, c'est-à-dire là, en France, l'UMP et le PS, hein, ont plutôt été vers un échec. Hein. Si, dans un pays européen, la gauche montre qu'elle ne peut pas faire, eh bien, qu'est-ce que vont en déduire beaucoup de gens ? Et avec raison, parce que c'est un raisonnement simplet, mais logique. Eh bien, c'est l'extrême droite. C'est ce qui nous reste, une autre possibilité. Donc la responsabilité, si l'extrême droite arrivait au pouvoir dans un pays européen, elle serait sans aucun doute à mettre au compte des néolibéraux, de Merkel, de Hollande, etc., et de tous leurs collègues, hein, qui imposent des politiques d'austérité qui ont montré leur inefficacité d'un point de vue économique et d'un point de vue social, c'est-à-dire leur dangerosité, hein, puisqu'il y a une crise en Europe, dans la plupart des pays, hein, un appauvrissement, une austérité généralisée. Mais néanmoins, on continue. Et la seule alternative qui pourrait marcher, l'alternative grecque aujourd'hui, on lui met tous les barreaux possibles dans les jambes.
Il y a peut-être un exemple que tu avais évoqué, Armand, tout à l'heure, là, par rapport à la télévision, oui. qui a été stoppée pendant le... Oui. Les mesures d'austérité et qui apparemment redémarrent.
Alors voilà, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, dans ce contexte terrible où on veut les écrabouillir, même qu'ils aient réussi, ils sont toujours là trois mois après, alors qu'on pensait qu'au bout de deux mois, ils auraient capitulé. Hein, c'est un gouvernement qui tient ses promesses et qui a pour l'instant la confiance du peuple.
Et qui est soutenu, oui.
Et qui est soutenu, qui a la confiance du peuple, et qui tient ses promesses. Après, bon, il est obligé de manœuvrer, et effectivement, pour l'instant, il n'a pas capitulé, loin de là. Et un exemple, c'est les symboliques les actes symboliques qu'il fait. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, je crois qu'on l'a pas abordé en détail, mais il vient quand même il y a un projet de loi pour donner la nationalité grecque à tous les immigrés de la deuxième génération.
La deuxième, oui.
Il y a par exemple, et ça c'est pas un projet de loi, c'est une loi qui est passée, où ils ont fermé, je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en France, on peut se rendre compte, ils ont fermé tous les centres de rétention qu'ils ont transformés en centres d'accueil. C'est-à-dire qu'on traite inverser la logique de la peur de l'immigré, de l'invasion, et tout en posant les problèmes, en disant que ce n'est pas la Grèce qui va résoudre tout, en disant qu'il fallait un plan à l'échelle européenne, mais qui n'est pas Frontex, qui n'est pas etc. Quand on voit la Méditerranée est devenue effectivement un cimetière par rapport aux migrants qui fuient les conséquences de la guerre, etc. Donc, effectivement, ce qui se passe en Grèce et les mesures qu'il prend montre qu'une alternative est possible, et c'est ça qu'on veut écrabouiller. On ne veut pas qu'on s'y intéresse et qu'on ait envie de le soutenir et même de faire pareil. Et le deuxième exemple, effectivement, qui est intéressant, c'est que, vous vous souvenez, la façon dont, la brutalité dans laquelle le gouvernement de centre-droit, à l'époque, avait fermé la télévision publique grecque, l'ERT. Hein. Il l'avait fermé avec un acte d'une brutalité où, tout d'un coup, les Grecs ouvraient leur télé, c'était un écran noir. C'est tout un symbole, hein, ça. Eh bien, eux, ils s'étaient engagés dans leur programme à dire que, effectivement, il fallait rétablir les règles pour un organisme public de radio, l'ERT. Et ils ont voté, donc, ils ont réintégré 2300 personnes qui avaient été licenciées. Il y en a, avant, il y en avait 2600, il y en a 300 qui sont partis à la retraite, et ils ont rétabli donc, c'est une société qui est sur des missions de service public, mais c'est pas un organisme d'État, hein. Mais par contre, ils ont des exigences, c'est-à-dire qu'effectivement, une des mesures pourquoi le gouvernement précédent a pris ces mesures-là, parce qu'il estimait que le fonctionnement de l'ERT n'était pas efficace, qu'il y avait des dépenses injustifiées, etc. Voilà. Mais eux, ce qu'ils ont dit par rapport à ça, c'est qu'ils ont rétabli tous les personnes licenciées. Il y a même de nouveau un outil qui fonctionne comme un organisme pour une télé indépendante, etc. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est effectivement avoir un débat avec le nouvel organisme qui a été rétabli pour voir effectivement s'il faut lutter contre le gaspillage, etc. Ce que je veux dire, il ne nie pas que toute administration a des problèmes, mais c'est la façon dont on répond à ça. Voilà. Donc sur ça, moi je pense que c'est effectivement important. Et puis le coût de ça, c'est 60 millions d'euros par an. Il le finance par une redevance de 3 euros par mois.
D'accord. Il faut qu'on...
Alors, moi, très court, pas toujours en lien par rapport à ce que vient de dire Armand, notamment, suite à la fermeture de RT, donc la seule télé, je dirais, publique, télé et radio aussi, publique en Grèce. Imaginez-vous, aucun média n'en avait parlé à l'époque. Ça s'est produit en 2013. Il y a eu une très, très grosse mobilisation. Il y a eu beaucoup de solidarité entre journalistes italiens, français, quelques-uns. Moi, j'y étais, cette mobilisation à Athènes. Imaginez-vous qu'on ferme aujourd'hui une télé ou de radio publique en France, comment réagiraient les autres pays ? Est-ce qu'il y aurait eu autant de solidarité ou pas ? Ce sont quand même des questions à se poser, et par rapport à la presse dominante aujourd'hui, où on en est aussi, parce que la presse dominante désinforme totalement.
On est bien conscient que la presse, de toute façon, soutient un camp, et c'est pas le camp d'accord. des Grecs.
C'est bien aussi pour ça qu'on est là et que on donne la parole à un collectif, parce que vous parlez solidarité, la solidarité, c'est aussi par exemple, vous rejoindre et s'informer autrement, justement, ne pas entendre. On a parlé plusieurs fois de la pensée dominante qui nous fait croire que les Grecs l'ont bien cherché, et on est bien là pour expliquer et remettre aussi les choses avec des chiffres, pour remettre la vérité.
Alors, justement, par rapport à cela, j'ai présenté très rapidement, au tout début de l'émission, la création du comité de soutien au peuple grec à Lyon. Alors, pour en discuter et décider collectivement des prochaines actions à Lyon, nous vous invitons à nous rejoindre on a une page Facebook, www.facebook.com/Comité de soutien au peuple grec Lyon. Là, vous avez toutes les informations, puisque tout est mis en page, et ainsi que nos diverses actions.
Tous les liens correspondants seront mis sur le blog de l'émission et sur le site d'Atacrone, où l'émission enregistrée sera rediffusée.
Mais moi, je vous enfonce le clou sur l'enjeu d'un large mouvement de solidarité en France et en Europe pour exiger du gouvernement français et de tous les gouvernements de l'Union européenne l'abrogation de toutes les mesures antisociales et des privatisations imposées par la Troïka, le droit de la Grèce en moratoire sur sa dette, arrêter de payer les intérêts illégitimes qui engraissent les banques et l'empêchent de mener la politique de justice sociale pour laquelle Syriza, le gouvernement grec, a été élu, le soutien d'une conférence internationale pour un audit de la dette grecque, on en a parlé, qui doit déboucher sur l'annulation de la dette illégitime à l'égard des banques et des institutions européennes, et en mettant un débat sur comment on doit coordonner des résistances, des luttes et effectivement multiplier les débats en dehors de la pensée unique dans les médias alternatifs comme le vôtre, sur la question de comment on s'attaque au contrôle des banques, comment on fait que... En Europe, est-ce que c'est une utopie ? Moi, je le dis, est-ce que c'est une utopie ? La socialisation des banques et un contrôle citoyen, social et démocratique du système bancaire, pour avoir un contrôle strict du mouvement des capitaux, les taxations des transactions financières, l'arrêt du recours des États aux marchés financiers et une lutte réelle contre l'évasion fiscale et la corruption. Ça, ce sont des enjeux en Grèce, en Espagne, en Irlande, en France et partout en Europe. C'est l'enjeu d'une autre Europe que celle-ci, parce que celle-ci, si elle continue comme ça, elle nous mène dans le mur, et donc il faut vraiment changer.
Très bien.
Je crois qu'on a oublié une information, c'est qu'on travaille aussi au niveau du comité pour peut-être à la mi-juin faire un meeting de solidarité avec la Grèce, avec des intervenants grecs, dont en particulier Stathis Kouvakoulis, qui est membre de Syriza et d'autres personnalités. Donc il y aura peut-être effectivement
Ce sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle émission, parce que je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet. Bon, on vous remercie,
Armand et
Léna. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Merci Radio Canu.